session de philosophie par le père Philippe à Saint-Jodard le 11 juillet 1990.
Comme il n'y a pas eu de carrefour, il n'y a pas de question. Si jamais vous en portiez en vous de très importantes, vous pouvez toujours les écrire et les communiquer à ceux qui sont chargés des différents carrefours ou me les mettre directement ici. C'est plus dangereux ici, parce que je risque d'oublier, mais ça peut quand même se faire. Alors on va continuer cette recherche. Il faut bien vous dire que le problème de la découverte de l'âme, point de vue philosophique, a été le gros problème de toute la philosophie grecque. Je crois que ça, c'est très important de se rappeler ça. Et ce problème, j'ajoute tout de suite, hein, parce que c'est important de se le rappeler, et ce problème ne s'est pas introduit au point de départ, mais avec Platon. C'est Platon et Aristote, et mettez toujours Platon et Aristote. Pas seulement Aristote, parce qu'on dit « Ah, ça, c'est un problème thomiste. » C'est de la grosse blague, ça. Celui qui dit ça, ça prouve qu'il n'est pas très intelligent. C'est la réponse qu'on peut donner. Parce que ça a été le gros problème de Platon. Plus que d'Aristote. Ça a été aussi d'Aristote. Et ce problème chez Platon s'est introduit en raison des traditions religieuses de l'Inde. C'est ce qu'aujourd'hui on affirme le plus. On ne sait pas très bien, mais ça fait bien. C'est pour ça que je le dis. Oui, parce que vous savez bien, je vous le disais tout à l'heure, du moins je vous le disais ce matin, jeune théologien, sympathique du reste, très sympathique, que j'aime beaucoup, dit cependant le problème de l'âme n'est plus sur le marché d'aujourd'hui. Il y a quelques années, j'ai vu des feuilles disant, c'était en Suisse que j'ai vu ça, j'ai interrogé, on m'a dit que ça venait de France. Bon. Des feuilles qui disaient, ne parlez plus de la distinction de l'âme et du corps. On dit ça au point du conseil pour la catéchèse. Ne parlez plus de la distinction de l'âme et du corps. C'est une distinction qui vient de saint Thomas et d'Aristote. J'ai lu ça de mes propres yeux. J'ai retenu, vous comprenez, parce qu'il y a des grosses bêtises qu'on ne perd pas et qu'on garde. Alors, il faut tout de suite, quand on est en face de... Et ça dure, ça. Je sais très bien qu'on a trop parlé de cette distinction en la réifiant, c'est-à-dire qu'on en a mal parlé. Alors, on parlait, oh, quelle belle âme. Jamais vu une belle âme. J'ai vu de beaux corps, de belles figures, de belles mains, de beaux pieds. Mais j'ai jamais vu de belle âme. On voit des actes merveilleux, des actes étonnants, mais on ne voit pas de... Ça ne se voit pas, ça, l'âme. Oui, on réifie. Et c'est vrai qu'on a, au XVIIe siècle, on a beaucoup réifié l'âme et le corps. Et alors ça, je comprends très bien qu'on réagisse devant ça. Mais la distinction de l'âme et du corps est une distinction réelle, faite par l'intelligence. Je vous donne encore un petit exemple pour vous reposer un peu hein, du carrefour qui a été bien transformé en accour. Alors, un petit exemple qui s'est passé à Lausanne. Je parlais de cette distinction de l'âme et du corps à un cher professeur de philosophie de Lausanne qui maintenant est au ciel. Très proche du catholicisme. Ils ont été vraiment très amis. souvent prendre, quand je passais à Lausanne, prendre mon repas chez lui, pour beaucoup de raisons, vous voyez. C'était agréable et puis c'était bien de parler ensemble sur certains sujets. Un jour, le problème est venu sur la distinction de l'âme et du corps. Alors il m'a posé carrément la question, est-ce que vous enseignez encore la distinction de l'âme et du corps ? Alors j'ai dit, oui, parce que pour moi c'est une distinction capitale. Mais Merleau-Ponty la rejette. Je dis oui, c'est pas étonnant qu'il la rejette, puisque pour lui c'est la conscience. Et toute sa philosophie est basée sur la conscience et le vécu, c'est la phénoménologie. Alors il ne peut pas arriver à la distinction de l'âme et du corps. Alors il ajoute, moi j'hésite beaucoup de la réaffirmer par formation. J'accepte, parce que j'ai été formé par Descartes. Donc j'accepte la distinction de l'âme et du corps, la substance pensante et la substance quantitative. Mais mes étudiants ne l'acceptent pas. Aucun étudiant que j'ai accepte la distinction de l'âme et du corps. Et alors il me dit comme ça, je ne peux pas vous inviter à l'université, c'était là beaucoup avant le concile, parce que ça ne se fait pas. Notre université n'est pas encore assez libre au point de vue de la pensée. Inviter un professeur de Fribourg, de l'université de Fribourg, c'est un papiste. Vous comprenez, à l'université de Lausanne, les calvinistes, ça ne va pas. Alors je dis, je comprends très bien. Je comprends très bien. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Lundi, ce que je pourrais, c'est les inviter ici, chez moi. On aurait une soirée à passer ensemble. Moi, je dis, mais c'est bien plus agréable qu'à l'université. Bien plus agréable, parce que là, on serait dans l'intimité. On pourrait bavarder ensemble. Il n'y avait que... Ah, bien, si vous acceptez, je les invite ici. Ils ne sont pas tellement nombreux en philosophie, trentaine, pour très bien tenir ici. Alors, je dis, bon, entendu, on a pris date, puis j'ai pris mon repas avec lui, puis ils sont arrivés progressivement. Alors, très vite, le sujet était là-dessus. Exprès, du reste, c'était voulu. C'était lui qui posait les questions, du reste. Il a posé tout de suite la question. Il a posé d'abord la question en face d'eux. Dites un peu, Père Philippe, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui acceptent la distinction de la vie du corps ? Oh non, c'est passé. C'est moyenâgeux. Non, on n'accepte plus ça. On est à l'école de Merleau-Ponty. C'est la distinction de la vie du corps. Non, c'est une vieille distinction. Donc il faut regarder la corporité, et puis il faut regarder la conscience. Donc l'intériorité, la corporité. Je les ai laissés parler un peu, puis après j'ai dit, bon, très bien. J'aurais dit, moi, je creuse cette distinction, je la cherche, j'essaie de la redécouvrir, parce que je crois qu'elle est importante. Là, est-ce que vous faites une distinction entre le fait d'être réveillé, de faire de la philosophie, et dormir ? Je posais la question juste à une étudiante qui était en face de moi. J'ai su après que c'était la fille d'un pasteur qui était particulièrement assez virulente. Mais j'avais été là juste en face de moi. Elle semblait intelligente autant qu'on peut le voir selon la figure. Et là, je pose la question. Alors, comme je lui pose la question comme ça, brutalement, ce qu'il faut faire au plan philosophique. L'intelligence demande d'être coupante, n'est-ce pas ? Faut pénétrer, la parole de Dieu est incisive. Est-ce que vous faites une distinction entre faire de la philosophie qu'on fait maintenant, ou vous allez dormir ce soir quand même ? Réponds pas. Allez, vous n'avez pas à répondre. Mais dites-moi un peu, quoi, est-ce que c'est... Pour vous, c'est la même chose ? Dormir ou faire de la philosophie ? Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Quand je fais de la philosophie, je suis très éveillé. Et je peux vous regarder. Quand je dors, je suis dans un autre monde. J'essaie d'expliquer la différence entre une distinction qu'Aristote prend tout le temps. Souvent, il Il aime de prendre cette distinction, parce que c'est une expérience qu'on fait tous les jours, et quelquefois, plusieurs fois par jour, quand on assiste à des cours de philosophie. Ou à des sermons. Alors, est-ce que vous voyez une différence entre les deux? Moi, je vois une différence. C'est très différent. Je vois très bien pourquoi vous n'acceptez pas. Parce qu'au fond, si vous acceptez la distinction entre les deux, vous acceptez la distinction entre l'âme et le corps. Oui. Vous dormez à cause de quoi? À cause de votre corps? Vous faites de la philosophie à cause de quoi? Par la conscience. Mais quand même, votre conscience, où elle vient, votre conscience? C'est quand même un acte sous-jacent à la conscience. Vous êtes consciente de penser. Est-ce que vous pensez de temps en temps? Vous faites de la philosophie, donc vous essayez de penser. Puis je l'ai cerné le plus possible. Pour arriver à se poser la question, mais tout ça fait, vous dormez, c'est vous? Ou est-ce que c'est une autre personne? Et vous faites penser, est-ce que c'est une autre personne? Ah non, non, là, elle a dit non. Il y a donc quelque chose qui est à la racine de ça. Est-ce que c'est que l'induction? Pas commode, hein, quand on a un a priori massif, Merleau-Ponty. Je suis disciple de Merleau-Ponty, donc c'est la conscience, je vais voir plus loin. Pas la peine. Puis, sous le coup de minuit, ce qui ne serait pas arrivé si on avait été à l'université, est arrivée l'épouse du professeur, qui est arrivée avec une tasse de thé. Vous savez, l'effet merveilleux quand on fait de la philosophie et qu'il arrive une tasse de café, de thé, puis des petits gâteaux, c'est qu'immédiatement le niveau philosophique baisse. Le niveau de la réflexion philosophique, ça devient très œcuménique. Alors j'attends un petit moment, puis je me retourne vers la même personne. Je lui ai dit, vous n'avez pas remarqué, j'espère qu'on l'a tous remarqué quand même, que dès que la tasse de thé est arrivée, surtout que ce thé paraît très bon, excellent, les petits gâteaux, ben, tout de suite, hein, le niveau philosophique dégringole. Vous voyez bien ça, j'espère. Alors, est-ce que c'est la même chose pour vous, boire une tasse de thé et faire de la philosophie? Le même silence. Il se tente mieux, vous voyez que Merleau-Ponty ne vous permet pas de répondre. C'est quand même très, très, très important, ça, dans notre vie. Moi, je ne sais pas, quand je fais de la philosophie, je sais que j'en fais. Et je me situe exprès à un tel niveau. Et quand je bois du thé, je sais que je bois du thé. C'est assez agréable. C'est reposant. Bien, suite, je vais essayer. Vous voyez, au fond, il faut revenir à une expérience très simple. La diversité de mes expériences vitales. Ce matin, je vais vous montrer les trois niveaux, exprès. Et tout le temps revenir à ça. Il ne faut pas croire qu'une fois qu'on a intuit l'âme, pour toute sa vie, c'est fait. Non, pas du tout. L'induction est un procédé merveilleux de l'intelligence. On dirait aujourd'hui un dévoilement. C'est le point de départ de l'analyse. On interroge. Je vois la diversité de mes opérations et c'est moi. Y a-t-il une racine commune? Ma vie a-t-elle une unité? Et qu'est-ce cette unité? D'où vient cette unité? Quelle est-elle? J'interroge. Si on n'interroge pas, il n'y a pas d'induction possible. L'interrogation, je vous l'ai dit au début, c'est capital. C'est l'éveil de l'intelligence. C'est l'arc tendu. Vous savez bien, quand vous voulez lancer une flèche, si l'arc n'est pas tendu, la flèche tombe par terre. Si vous tendez, la flèche s'en va. Eh bien, c'est ça le propre de l'interrogation. Notre intelligence se tend. Et la flèche part. Et à ce moment-là, en raison même de la vigueur de votre interrogation, vous dépassez toute l'opacité et la complexité des expériences pour saisir dans l'expérience même ce qu'est le noyau. Ça, c'est très bon. Platon, qui est toujours plein d'images, c'est pour ça qu'on doit aimer Platon, parce que ça nous redonne des tas d'images. Platon dit que l'interrogation, c'est le chien de chasse face à un bosquet devant lequel il sent que le gibier est caché. C'est assez joli. Il est tendu, en arrêt. Il sait que le gibier est là. C'est ça l'interrogation. L'interrogation, c'est une anticipation de la découverte. Oui, c'est l'analogue à l'hypothèse au niveau scientifique et recherche scientifique. Si vous n'avez pas d'hypothèse, vous ne découvrez rien. Oh, par hasard, quelquefois, mais très rare. Si vous avez une hypothèse, vous avez une conduite de recherche. Et quelqu'un qui fait un doctorat en sciences, il a une hypothèse. Quelqu'un qui fait un doctorat en philosophie, il a une hypothèse. On lui a mis dans la tête une hypothèse. Cette interrogation, c'est cette tête-là qu'il faut aller. L'interrogation, elle est très simple. Je vois qu'il y a en moi une source d'intériorité. Pas aller très loin. Je vous l'ai dit ce matin, la souffrance creuse. Et je vois qu'en moi, une source d'extension, d'extériorité, de manifestation, de juxtaposition. Bon, cette source d'extension, de juxtaposition, celle-là, je la touche. C'est mon corps. Mais mon corps n'est pas source du tout d'intériorité. Jamais source d'intériorité. Il faut donc qu'il y ait quelque chose d'autre en moi et plus intime que mon corps. Puisque nous avons vu que le cadavre pèse lourd. Et donc il y a quelque chose qui allège le corps. Et nous avons dit qu'il y a comme un corps psychique. Le psychiste, un corps psychique, sensible, presque aérien. Donc, il y a quelque chose qui vient alléger mon corps, le porter de l'intérieur. Qu'est-ce qui fait ça? Jusqu'à mon corps, jusque dans ma vie végétative. On dit aujourd'hui, vous savez bien, quand il s'agit d'un malade, « Ah, si le moral est bon, il s'en sortira plus vite. Hein » Les bons médecins reconnaissent donc qu'il y a une source qui porte le corps. Permet d'aller plus loin. Si le moral est bon, moral c'est l'intériorité, c'est cette intention profonde d'en sortir. Il faut sortir de là. Je désire en sortir. Un malade qui ne veut pas en sortir, qui dit ah, ça annonce ma mort, et chaque jour il s'y rapproche un peu plus. On a beau lui dire mais non, pas du tout. Hein? Le moral est tellement bas que ça glisse. Donc, il y a quelque chose de radical en nous, plus radical que notre corps, plus radical que la matière. Cette source, les traditions religieuses l'appellent l'âme. Les traditions religieuses appellent l'âme. Le mot âme n'est pas un mot philosophique, d'invention philosophique. Très important, c'est comme le mot Dieu. Ce n'est pas un terme d'invention philosophique. C'est un terme qui provient des traditions religieuses. Je voudrais relever, vous voyez, ce serait très intéressant comme petit topic sur l'âme. Relever les noms dans les diverses grandes traditions religieuses, les noms de l'âme et les noms du corps. Nous connaissons la tradition grecque, hein, psyché, soma, traduction, tradition latine, Déjà, la tradition d'été, on dit animus anima. Là, au bout d'un certain temps, on s'y trompe, ayant le clonel, on ne sait plus très bien où se trouve l'âme. C'est animus ou anima. Selon la tradition religieuse, c'est anima. L'âme. Source d'intériorité. Source d'immanence. Source de vie. Donc, vous voyez, comment je découvre cela ? Par ce procédé qu'on appelle tout simplement une induction. Remonter à la source. Vous voyez, quand vous avez remonté un petit fleuve à la source, c'est très beau de faire ça. Ou un fleuve important de le remonter à la source. Quand vous voyez la source du Rhône et du Rhin en Suisse, pas très loin. C'est intéressant de remonter à la source. Eh bien, l'intelligence remonte à la source par ce procédé inductif. Et pour remonter à la source, il faut une grande attention. Il faut une grande application. Il faut tendre l'arc. Autrement, dès qu'on verra une difficulté, on dira non, c'est pas la peine. Je m'arrête. Remonter. Et plus on s'approche de la source, plus on s'aperçoit qu'en effet, ça ne peut pas être autrement. Il y a une source d'intériorité en nous. Et c'est cette source d'intériorité qui fait que je peux, de l'intérieur, en réfléchissant à un amour spirituel. Ça vient de moi, ça. Mon âme est présente à cet amour spirituel, comme mon âme est présente à une contemplation, comme mon âme est présente dans chacun de mes jugements. Ça vient de moi. Oui, alors on découvre cette source d'intériorité, l'induction. Alors, avant d'aller plus loin, je reviens un instant à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on vous met devant vous l'objection, la distinction de l'âme et du corps est une distinction aristotélicienne, thomiste, maintenant vous savez quoi répondre. Dites non, la distinction de l'âme et du corps provient des traditions religieuses. Et toutes les grandes traditions religieuses parlent de l'âme et du corps. Toutes les grandes traditions religieuses. C'est pas étonnant, parce que pour qu'il y ait tradition religieuse, qui est une âme, c'est pas le corps. Oui, si je meurs comme un chien, j'ai pas fait un droit religieux. Après moi, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la terre et mes ossements. La tradition religieuse parle au contraire toujours d'un au-delà. Il y a quelque chose au-delà. La tradition religieuse est là pour distinguer le bien et le mal. Parce que on domine son corps. Si vous n'aviez aucune maîtrise sur votre corps, mais laissez les instincts. Si vous avez une certaine maîtrise sur votre corps, vous êtes responsable de votre corps. À vos propres yeux. L'éthique, mais elle ne peut exister que s'il y a une âme. L'éthique ne peut pas être une super biologie. Autrement, c'est plus du tout l'éthique. Monod disait, dans les rencontres internationales à Genève, que la morale, c'était un dressage. Élever un enfant, c'est comme dresser un chat à être propre. Donc, il réduisait la morale simplement un dressage. Le dressage se fait de l'extérieur avec une récompense. Quand vous dressez un chien, il faut beaucoup de morceaux de sucre. Tandis que éduquer, ça se fait de l'intérieur. Le dressage apprend une virtuosité, une souplesse. Vous voyez le dressage des éléphants qui jouent du piano dans un cirque. C'est un dressage d'une virtuosité extraordinaire. C'est pas une éducation quand même. Ça, rien à voir du tout. Ça se fait de l'extérieur. Vous dressez de l'extérieur en apprenant une méthode. Des réflexes successifs. Et là, vous dressez. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de l'éducation, c'est l'intérieur. Ça repose sur l'âme. Pas d'éthique sans âme. La condition sine qua non de l'éthique, c'est l'âme. Personne humaine, c'est bien évident. Mais l'âme, sujet de responsabilité, capable de porter mon corps. Mon âme porte mon corps. Vous savez qu'un corps vivant est plus léger qu'un cadavre. Il y a une souplesse, une légèreté. Un corps vivant danse. C'est l'âme qui le fait danser. Chose très, très, très connue, saisir ça. Alors, voyez, comprenez bien ça. J'y tiens parce que il y a des slogans comme ça qu'on répète et que tout le monde répète sans réfléchir du tout sur la valeur de ces slogans. Et alors, ces slogans sont désastreux. Le mot âme, comme le mot Dieu, le terme âme et le terme Dieu, provient de traditions religieuses. Alors, le philosophe les intègre dans sa philosophie. Et c'est ce qu'a fait Platon. Platon s'est posé la question, est-ce que ces traditions religieuses, est-ce que ce sont des mythes? Ou est-ce que le logos est présent? Vous savez, quand Heidegger parle du moutos et du logos, vous savez mieux le moutos, alors on voit bien le mythe. Le mythe est toujours un peu extérieur à la philosophie. Le logos, c'est la conquête de la philosophie sur l'expérience. Et alors on peut dire, vous voyez, que l'induction me permet de découvrir ce logos à travers l'expérience actuelle que je vis. Et si je découvre qu'il y a une source de vie unique, très intime, très caché, au plus intime de moi-même, qui anime mon corps, qui anime mon psychisme, et qui est capable de dépasser mon psychisme. Je vois qu'il y a une source très profonde en moi. Et cette source répond exactement à tout ce que le mythe peut dire de l'âme, du moins répond momentanément, en partie. Parce que en découvrant l'âme, je ne sais pas si elle est immortelle. Grave question, très loin du problème qu'on se pose, et pourtant très importante. Ne disons pas que c'est complètement indifférent encore. Non, pas du tout. On va le voir. Mon corps est différent. Comprenez bien. Je ne dis pas substantiellement différent, mais je dis différent. Dans son exercice. Si il est habité par une âme mortelle ou une âme immortelle. Ça aussi, c'est une très bonne question. Hein. Il faut réfléchir là-dessus. Alors, je découvre cette source intérieure de vie. Et je vois que cette source intérieure de vie, en effet, a quelque chose de très spécial. Elle anime le corps, vie végétative. Elle informe le corps. Elle est source de vie. Elle est vie sensible, de connaissance sensible, d'affectivité. les sources de la mémoire, de la pensée. Alors, question, maintenant que je repose, j'ai voulu le reprendre exprès pour qu'on fasse deux fois cette induction. Je peux poser la question, y a-t-il une seule âme? Ou y a-t-il trois âmes? Croyez bien que cette question a été une question qui a été discutée longuement. En philosophie et en théologie même. Oui, je pourrais avoir une âme qui vient de mes parents et une âme qui vient de Dieu. Puis une petite rencontre souterraine, où l'âme venue de Dieu et l'âme venue des parents vont s'accommoder. Et l'accommodation se fera au niveau psychique. Puisque c'est au niveau psychique que se fait tous les drames et toutes les oppositions, ce qui vient d'en haut, ce qui vient d'en bas, les deux naissances. J'ai une naissance d'en haut, une naissance d'en bas. Oui, et puis ça se tombe là, dans le corps. Et c'est le psychisme. Vous pourriez faire ça. C'est pas si bête, après tout.
En vue d'un dépassement.
distinction substance et accident. Cette source de vie, ce principe de vie, est au-delà de la distinction corps, sensible et intelligible. Et voyez pourquoi le corps est source de toutes les choses accidentelles ou sensibles. C'est toujours accidentel. Et le point de vue de l'intelligence a une relation vers quelque chose de substantiel. Et donc, il n'y a aucune difficulté à comprendre que la source de la vie en moi, l'âme, est au-delà de la distinction du sensible et de l'intelligible. J'allais presque dire, la vie le demande. Toute la diversité se ramène à l'unité. C'est prodigieux du reste, quand on essaie de comprendre un peu ce que représente cette source radicale de vie. Et cette source radicale de vie est en même temps source d'être. Parce que, justement, elle atteint la substance. Elle ne reste pas seulement dans l'ordre de l'intentionnalité. Parce que cette intentionnalité, dans la vie végétative, est tout de suite reliée à la réalité. La fameuse distinction qu'il faut faire. Autre chose est de prendre le petit déjeuner d'une manière intentionnelle. Quand vous sortez à 5 heures du matin, vous mettez tout proche de la boulangerie que vous n'avez pas mangé le soir. Donc vous avez faim. Et vous sortez et vous sentez l'odeur agréable des petits pains frais. C'est merveilleux. Ça sent très bon. Est-ce que ça vous contente? Ça vous suffit pour votre petit déjeuner? Ce serait très économique, vous voyez. Après ça, comme exercice merveilleux pendant la session, on aura un déjeuner philosophique, c'est-à-dire intentionnel. On ira tous à 5 heures du matin, successivement pendant 5 minutes, à la fenêtre du boulanger. Merveilleux, en 5 minutes, cette odeur. Puis après, vous reviendrez. Dispense du petit déjeuner. Non, au contraire, sentir cette odeur, ça vous donne faim. Et vous voulez manger, casser la croûte. Vous voyez, le sensible est lié à la vie végétative. Et la vie végétative est liée à la vie substantiellement physique. Il y a des liens, pas séparés. On peut distinguer, mais pas séparés. Donc, principe de vie demande des principes d'être. Et je le sais bien, très bien, je peux le dire. Et chacun d'entre nous, on peut le dire. Pour moi, vivre, c'est exister. Je crois. Pour moi, vivre, c'est exister. Ma vie, c'est exister. Et mon exister, c'est ma vie. Si je ne vivais plus, j'aurais l'impression de plus vivre, de ne plus exister du tout. Principe de vie rejoint le principe d'être. Et c'est l'âme. Il y a donc un principe d'unité radicale au-delà de cette diversité. Mais je dis tout de suite que les liens entre le corps et l'âme comme principe de vie sont divers. Ils ne sont pas uniques. Implique un certain ordre, une harmonie. Et c'est ça qui est peut-être intéressant à voir. Toujours pour mieux comprendre le corps. Mais voyez, déjà ça, c'est extrêmement important de comprendre ça. parce que je vois que tout de suite, que si l'âme est principe radical de mon intériorité, et que cette intériorité, je l'ai découvert à l'intérieur de mon corps, je ne peux pas saisir pleinement ce qu'est mon corps sans avoir saisi l'âme. Et donc, une philosophie du corps est en attente d'une philosophie de l'âme. Il peut y avoir une description phénoménologique du corps, de la corporéité, à la manière de Merleau-Ponty. Oui, ça peut se faire, sans parler de l'âme. Mais il ne peut pas y avoir une philosophie qui va jusqu'à la source, jusqu'au principe, jusqu'à la cause. C'est très vrai que descriptivement, je ne parle pas de l'âme. Je parle de ma conscience, du vécu. Et de la conscience que j'ai de mon vécu. Et que la conscience que j'ai de mon vécu implique toujours, toujours la présence du corps et la présence de l'âme dans une certaine unité. Et donc, je ne fais pas la distinction. Je n'ai pas besoin de faire la distinction. Oui, il faut répondre à la question de Merleau-Ponty. Il faut comprendre que, de fait, dans une perspective où on ne regarde que la description du vécu, je ne peux pas faire la distinction de l'âme et du corps. Dans l'impossibilité. Je pourrais dire qu'il y a des zones où le vécu est plus aérien, et des zones où le vécu est moins et plus matériel. Il y a des zones où je touche quelque chose de beaucoup plus intérieur et d'autres moins intérieur. Il y a du plus et du moins. Mais je ne peux pas distinguer. Et ça, c'est très important pour notre monde d'aujourd'hui. Pour ne pas vouloir découvrir l'âme à partir d'une méthode qui est incapable. Méthode descriptive ne peut pas saisir l'âme parce que l'âme est un principe et une source. Et seule l'intelligence qui veut aller jusqu'au bout de ses exigences, une intelligence philosophique, peut atteindre l'âme comme principe, comme cause, comme source. Essayer de comprendre les liens qui existent, différents. Et par là, répondre, vous voyez, aux diverses philosophies qui ont mis plus en lumière tel ou tel aspect. C'est ça qui m'intéresse. Il faut que la découverte de la vérité réponde en même temps à toutes les erreurs, comment ça s'est fait. Que des philosophes ont nié l'âme. Des philosophes intelligents. Comment ça se fait? Eh oui, parce que l'âme, c'est pas évident. Le corps, c'est évident. Mais l'âme, c'est pas évident. Vous la portez en vous. C'est quelque chose de caché. C'est un trésor caché. C'est une source. Donc c'est pas étonnant que certains qui ne voient que le point de vue de la mensuration, qui ne voient que le point de vue de la description, ne puissent pas atteindre l'âme. Seul une analyse par l'induction permet de découvrir cette source et de la mettre en lumière et de montrer ce qu'elle est et par là rejoindre les traditions religieuses et répondre ce qu'il y a d'intéressant, répondre à ce qu'il y a d'intéressant dans ces traditions religieuses, en montrant aussi que ces traditions religieuses constamment, comme toutes les traditions, et surtout les traditions religieuses, charrient beaucoup de boue. Et plus on découvre quelque chose de profond, plus la source est loin, et plus elle descend comme un torrent, en charriant beaucoup de boue. Où il y a le plus de boue, c'est par rapport à Dieu, puis après l'âme. C'est les deux grands aspects des traditions religieuses. Et le philosophe s'intéresse à ça. Alors, comprenons, l'âme est forme du corps dans toute ma vie végétative. Forme substantielle du corps. Et donc, entre l'âme et le corps, il y a une unité substantielle dans ma vie végétative. Et ceci, c'est l'expérience qui me le montre. Puisque dans ma vie végétative, je peux être source de vie pour un autre être. Quelque chose de substantiel dans la vie végétative. De toute façon, on comprend bien. La vie végétative, elle est très fondamentale. C'est quelque chose de très, très radical. Quand vous touchez à la vie végétative de quelqu'un, il commence à hurler. Quand vous touchez à un régime alimentaire, voyez combien c'est précieux. C'est vrai, c'est fondamental la vie végétative. On sait très bien ça. Donc là, l'âme est forme substantielle du corps. Alors voyez tout de suite la petite question qui se pose. Si l'âme est forme substantielle du corps, à travers le corps, je vois l'âme. Bonne petite question. Vous auriez pu le dire tout de suite. Puisque le corps est matière, si le corps est matière, il est en puissance. S'il est en puissance, il est non déterminé. L'âme et forme du corps, et forme substantielle du corps, c'est-à-dire forme radicale. Il n'y a pas une forme plus radicale que l'âme. Donc si elle est forme radicale de l'âme, le corps vivant reflète. Quand la mère regarde les yeux de son gosse, il regarde bien. Oh, je vois bien que tu te trompes, que tu es en train de me tromper. L'âme, à travers les yeux, voit l'âme. Et Platon disait que les yeux jetaient du feu. L'âme qui jette du feu, c'était spirituel. Donc, quel est ce lien entre l'âme et le corps, puisque l'âme détermine. Prenez l'analogie, hein, parce que c'est toujours ça qu'il faut prendre. Quelle est la première analogie de cause formelle, cause matérielle? C'est l'analogie de l'œuvre d'art. Dans une statue, vous avez la forme, vous avez la matière. Le bois. Dans une dissertation, vous avez la forme, le contenu, puis la matière. Matière et forme. Une distinction classique, dont le premier analogué, c'est-à-dire la première découverte de cette distinction matière et forme, se prend de l'œuvre d'art. Il ne faut jamais oublier ça. Chose très simple que prend Aristote. Bon. Aristote dit, il y a un cercle en airain, il y a un cercle de bois, il y a un cercle de fer. C'est toujours le cercle. C'est la forme. Et la matière, c'est l'airain. Ça, tout le monde peut le saisir. Hein. Puisque c'est séparable. Là, la distinction est séparable. Je fais une statue de bois. Quand vous visitez un musée, vous voulez savoir si la statue C'est vrai, c'est intéressant de voir si c'est du bois ou si c'est du marbre. Cette statue, de bois ou de marbre. La statue au cœur de la Vierge Marie, très fine. Est-ce que c'est du bois? Du bois des îles? Du bois noir? Ou est-ce que c'est de la pierre? Hein, c'est intéressant. Faites la distinction entre la forme, la figura. La forme, la figura. Et puis la matière. Et quand vous voulez connaître quelque chose, bien le connaître, vous voulez connaître les deux. Et vous faites la distinction. Vous transposez cette distinction dans le monde physique et dans le monde des vivants. Vous avez l'âme et le corps. Et vous voyez, la distinction entre âme et corps est difficile à faire parce que, comme disait le vieux philosophe, on ne peut pas faire comme pour le cercle. J'ai une âme pour le petit matin. Celle-là, c'est du bois. J'ai une âme pour midi. Celle-là, c'est du fer. J'ai une âme pour le soir. C'est de la mousse. Détendu, détendu. Plastique, c'est bien mieux. On ne peut pas faire ça. Mon âme habite toujours le même corps. C'est pour ça que c'est difficile de voir la distinction entre les deux. Mais l'âme, c'est la forme. Donc, c'est ce qui détermine. C'est ce qui donne la figura. Parce que la détermination, la figura, la figure. Vous voyez l'analogue? Et donc, quand je vois la tête de quelqu'un, ça vient de son âme, ça. Léonard de Vinci, c'est un artiste, disait qu'à 45 ans, on avait la figura de son âme. Il disait ça quand il cherchait pour la scène. Une figure de Christ et une figure de Saint Jean. C'est pas toujours vrai, ça. Il y a des brigands qui ont des têtes admirables. Il y a des gens merveilleux d'honnêteté qu'on n'aimerait pas de rencontrer le soir. C'est curieux, ça. Hein? Alors, comment ça se fait, ça? Vous voyez? Là, je pose concrètement, parce que c'est là où on voit la distinction de l'âme et du corps, comment la faire. Tout ce que je vois, c'est le corps. Trop beau, hein, si je voyais la figure de l'âme. Alors, et cependant, c'est vrai, l'âme informe le corps, et donc lui donne sa figure. Pas possible autrement. Autrement, l'âme ne serait pas présente à tout le corps. Tout le corps vivant. Ah, je vous ai dit, hein, qu'il y avait de la matière qui résistait toujours à l'information. Être informé par l'âme, c'est vrai, mais quand même, hein, la figure, une belle figure, bien stylée, bien si, bien précise, en bonne harmonie, c'est pas le corps, ça. C'est l'âme qui donne ce point de vue-là. Un regard vivant, c'est pas le corps, c'est l'âme. Alors vous allez me dire, ah, c'est les deux. Et c'est vrai, c'est les deux. L'analyse de l'âme et du corps, c'est une analyse que fait le philosophe. La réalité du corps vivant, c'est un corps habité par une âme. Et donc la figure, c'est à travers ce corps, l'âme qui rayonne. C'est donc bien les deux. Les deux sont présents dans une figure humaine. autres sont présents. Le corps est là. Et c'est inséparablement uni. Et c'est pour ça que je dis que l'unité du corps et de l'âme est une unité substantielle. Inséparablement uni. En coopérant. Ce que Léonard de Vinci ne dit pas tout à fait vrai, il est un artiste, donc c'est normal, c'est pas tout à fait philosophique ce qu'il dit. C'est qu'il peut y avoir des choses monstrueuses dans le corps, les monstres. Il peut y avoir des corps difformes, il peut y avoir des figures difformes et des très belles âmes. C'est très curieux ça. C'est pour ça que vous ne jugez pas sur les apparences. Ne jugez pas sur les apparences. Les apparences, c'est ce qu'on voit. L'apparence ne dit pas adéquatement ce qui est caché, l'âme, ce qui est la source. Pourquoi ? Parce que justement, le corps charrie des tas de choses. Hein, le corps humain, tout l'atavisme. On a tous en nos ancêtres un brigand. Qu'est-ce qu'il oserait dire ? Parce que même dans la généalogie de la Vierge Marie, il y a des gens pas très recommandables. Heureusement qu'elle est immaculée, alors tu reprends tout, radicalement tout. Mais dans toute généalogie humaine, il y a des gens contrairement. Normal, on n'en parle jamais. Sauf à la naissance du petit, d'un enfant dit, il ressemble à qui ? Alors, devant les parents, mais tout de suite. Et non, puis par derrière, dit, oh, qui ressemble à ce brigand, cet oncle, insupportable. Pourvu que son âme soit victorieuse de cet atavisme. Il y a tout un atavisme, c'est le flux qui charrie tout ça. Ça, c'est la matière et les dispositions. La matière, c'est pas. Le corps, c'est pas la matière pure. Le corps implique toutes les dispositions qui viennent de l'atavisme, qui viennent du père et de la mère, et qui charrient cet atavisme. Très curieux. Et à travers ces dispositions, l'âme, à travers, mettra une relation nouvelle. Quelque chose de différent et unique. Même si on ressemble à l'arrière-grand-oncle, brigand, on a encore des chances d'être un saint. Ça, c'est merveilleux. Parce que chaque fois, il y a une reprise radicale par l'âme. Source radicale d'information du corps. Et source radicale d'information du corps, donc, elle donne à ses dispositions quelque chose de tout à fait nouveau. Et d'unique. L'âme est présente à travers tout ça. Et c'est la victoire de l'âme. Et quelquefois, cette victoire est arrêtée. Parce que dans ses dispositions, il y a des très grosses pierres, énormes, qui empêchent l'âme de voir traverser tout ça. Et l'âme est quand même présente. Et petit à petit, l'âme pourra devenir victorieuse de tout ça.